Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin dans Chrétien d'Orient sur France Culture, nous continuons notre voyage vers Chypre. Cette odyssée en Méditerranée orientale lancée sur la trace des chevaliers et rois lusignans. Nous retrouvons la compagnie de Laurent Fenoy, universitaire, enseignant et chercheur, pour continuer notre découverte de l'île d'Aphrodite. Pour rappel, votre livre s'appelle « Chypre, l'île des nations chrétiennes » chez Goetner. Je rappelle les deux dates, 1192-1473, thématique que nous déclinons ce matin autour du rôle du port de Famagouste et de ses liens avec l'Orient chrétien. Bonjour Laurent Fenoy.
Bonjour Sébastien.
Alors nous avons le deuxième volet de notre découverte de Chypre ensemble ce matin. Nous avons évoqué la fois passée la découverte de Chypre par les Lusignans, le fait qu'ils aient acheté cette île, qu'ils aient régné un peu moins de 4 siècles et faisant place ensuite à la présence vénitienne jusqu'à l'époque ottomane, qui ensuite ont été remplacés par les Britanniques et l'indépendance de Chypre jusqu'en 1960. Voilà, un court condensé d'une histoire importante et profondément attachante. Alors nous allons continuer la question des migrations dont nous parlions la fois passée. En 1191-92, les Lusignans arrivent. Quelle est cette population qui les accompagne et qui ont-ils essayé de faire venir dans les années suivantes?
Alors, effectivement, nous disions que bien avant l'arrivée des Lusignans, l'île de Chypre avait accueilli de nombreux chrétiens orientaux, ce qui montre déjà des tensions sur le continent entre les chrétiens orientaux et le domaine islamique, tensions qui avaient précédé les croisades et les incursions mongoles. Mais il est vrai que durant les croisades, ces migrations entre le domaine islamique et l'île de Chypre s'amplifie considérablement et se prolonge ensuite bien au-delà des croisades jusqu'au XVe et XVIe siècle. Alors effectivement, les Lusignans arrivent en 1192 et ce qui est tout à fait significatif, c'est que Guy de Lusignan bénéficie pour acheter l'île de Chypre aux Templiers, il bénéficie des subsides d'un riche bourgeois syrien de Tripoli qui s'appelle Saïs ou Saïd. Et donc cela montre que, dès le départ, l'installation franque dans l'île de Chypre s'accompagne de migrations de chrétiens orientaux. Et on peut dire que francs et chrétiens orientaux, entre 1192 et 1291 étant l'année de la chute de Saint-Jean d'Acre, nous pouvons dire que francs et chrétiens orientaux fuient main dans la main, ils fuient de concert et qu'il existe une véritable solidarité entre les francs et les chrétiens orientaux face à la poussée islamique. Alors nous avons en ce sens plusieurs témoignages. Il faut comprendre que les marines de l'époque, que ce soit les marines des Templiers, enfin des ordres militaires, marines des Templiers, des Hospitaliers, les marines italiennes, génoises ou vénitiennes, les marines des rois de Chypre disposent de bâtiments comme les nefs ou les tarides, qui peuvent acheminer dans l'île de Chypre jusqu'à 1500 passagers, qui peuvent acheminer du bétail et qui effectuent plusieurs rotations. Et donc il y a une véritable politique volontariste des Lusignans en faveur du refuge dans l'île de Chypre. Par exemple, lors de la chute de Saint-Jean d'Acre, nous savons que le bateau amiral de la flotte des Templiers, le Falco, effectue plusieurs rotations pour permettre à la population chrétienne de fuir. Même chose quelques années auparavant, dans les années 1280, alors que Tripoli vient juste de tomber, en 1289, les maronites de Jbeil fuient massivement en direction de l'île de Chypre. Les sources nous disent que femmes, enfants et également le bétail quittent Jbeil. Et on voit le degré de rupture entre les maronites et les pouvoirs islamiques au fait que, avant de partir, ces maronites incendient la ville de Jbeil pour éviter qu'elle ne tombe entre les mains des mamelouks. Les solidarités se mesurent ensuite continuellement au travers des sources. Par exemple, dans les années 1320, les Lusignans envoient plusieurs navires pour faciliter la fuite des Arméniens en raison de la progression des mamelouks.
Quelles sont les populations qui précèdent cette arrivée massive de gens du Moyen-Orient, on va dire? Est-ce qu'on a une idée du nombre de Grecs orthodoxes, de comment cette cohabitation s'est passée dans les premières décennies?
Disons que évidemment, les sources grecques sont très critiques et précisent qu'il s'agit d'une véritable invasion. Mais c'est très exagéré. En réalité, l'élément grec reste majoritaire.
Dominant.
Reste dominant sur un plan démographique. Mais cela en dit long. Néanmoins, les critiques, en particulier de Néophyte le Reclus, fin 11e, 12e siècle, en disent long sur l'impact de ces migrations sur les autochtones grecs. Et en outre, ces migrations qui étaient déjà très nourries durant la période de domination, durant les croisades, se prolongent au-delà des croisades. Et c'est sans doute au cours du XIVe et XVe siècle que les migrations sont les plus abondantes. Ce n'est pas dans les croisades. Et là, nous avons trois types de migrations. Le premier type, ce sont les chrétiens qui revendiquent une autonomie ou qui revendiquent une indépendance vis-à-vis des mamelouks, alors en particulier les maronites, avec au cœur du pays maronite le mont Liban, et qui doivent céder, et donc ils sont très nombreux à migrer dans l'île de Chypre, et puis ensuite, au XIVe et XVe siècle, les Arméniens. Mais en plus, alors les Arméniens qui, eux, étaient indépendants dans le royaume de Cilicie.
La Cilicie étant au nord de Chypre, la région d'Adana, on va dire, aujourd'hui au sud-est, et qui, encore une fois, en termes de proximité géographique, est très proche.
C'est cela. Nous avons beaucoup de témoignages de cette proximité entre Chypre et la Cilicie concernant les modalités de douane. Les sceaux sont identiques de part et d'autre de l'isthme qui sépare le Carpathe de la Cilicie.
Donc nous voyons des maronites, nous voyons des arméniens, vous avez évoqué des familles syriennes. Est-ce qu'il y a d'autres rites, est-ce qu'il y a d'autres communautés que vous avez pu identifier?
Alors effectivement, en plus des chrétiens orientaux autonomes et indépendants, il y a des chrétiens orientaux qui sont, eux, soumis au pouvoir musulman et qui ont pu subir des maltraitances, notamment au XIVe siècle, je pense aux Coptes d'Égypte, je pense aux Éthiopiens, aux Nubiens, mais les migrations de ces Coptes, Éthiopiens et Nubiens, sont documentées, mais semblent nettement moins importantes que les migrations auxquelles nous avons fait référence. Par contre, en ce qui concerne les Syriens jacobites, les Syriens melkites et les Nestoriens, alors là, nous nous apercevons que après les croisades, ces populations subissent également des maltraitances. On s'aperçoit que les mamelouks sont obligés d'ériger de véritables barrières migratoires pour empêcher, pour limiter les mouvements migratoires de ces chrétiens en direction des territoires chrétiens riverains. On le voit notamment au travers des populations rurales qui travaillent dans les exploitations sucrières et qui fuient ces exploitations, ce qui semble indiquer l'existence de maltraitance. Et surtout, le phénomène majeur, c'est qui témoigne de la propension de ces chrétiens orientaux à choisir une autre destination que les domaines musulmans, s'opère durant les invasions mongoles. Et les invasions mongoles déstabilisent la territorialisation du pouvoir mamelouk dans les années 1250, puis à nouveau dans les premières décennies du XIVe siècle et jusqu'au début du XVe siècle. Et les chrétiens orientaux profitent du desserrement de l'étau mamelouk pour contester l'ordre social qui ne leur profite pas et fuir pour l'île de Chypre.
Un phare dans cette géographie, c'est la ville de Famagouste dont nous parlions tout à l'heure. Donc un port immense donc qui est à Chypre, tourné vers le Levant. Un port qui a été important, qui a été comparé à New York de la Méditerranée orientale pour avoir une image saisissante pour que l'on réalise une ville qui existe toujours. Pour ceux qui la connaissent, c'est fascinant de voir la taille de ces fortifications, par exemple.
Oui, de fait, Famagouste est une véritable ville champignon et qui témoigne, elle est le miroir de ces migrations. C'est une ville qui dispose d'importantes forteresses. C'est un emporium tourné vers les activités commerciales qui fait véritablement le lien entre l'Occident et l'Orient. C'est l'aboutissement des routes d'Asie. C'est une ville où les chrétiens orientaux, sans disposer de quartiers spécifiques, on ne peut pas parler de ségrégation spatiale, mais où les chrétiens orientaux souhaitent probablement se retrouver entre eux, en témoigne la répartition de leur habitat et la répartition des lieux de culte à l'ouest de Famagouste, où dans un périmètre circonscrit, nous retrouvons des établissements arméniens, grecs, maronites, melkites, etc. Et cette ville de Famagouste, on peut dire qu'il y a deux capitales dans l'île de Chypre, Nicosie, la capitale de Chypre, et Famagouste est la capitale qui recueille l'héritage de la Terre Sainte, qui révèle les liens entre Chypre et l'Orient, puisque les rois de Jérusalem conservent leur titre, malgré que la Terre Sainte ait été reprise par les Ayyoubides et par les Mamelouks, et les rois de Jérusalem sont couronnés dans la cathédrale de Famagouste, alors qu'ils sont couronnés rois de Chypre dans la cathédrale de Nicosie.
C'est-à-dire qu'un seul roi pouvait être couronné deux fois, en fait. D'abord à Nicosie comme roi de Chypre, et ensuite il se rendait à Famagouste, où se trouve aussi une cathédrale, la cathédrale Saint-Nicolas, et il était aussi couronné roi de Jérusalem, c'est bien ça ?
C'est cela, très exactement. Et en même temps, le double couronnement s'accompagne de d'équilibres démographiques distincts, puisque Famagouste, nous disent les sources, en particulier Jacques de Vérone, Ludolphe de Sudheim, nous disent que Famagouste est majoritairement peuplé par des chrétiens orientaux, par des Syriens, très exactement. Le terme de Souriani est générique, il englobe les différentes confessions syriennes. Et donc, les Syriens, au sein de Famagouste, sont occupés à des fonctions d'échanges commerciaux. Les actes notariés, qui sont très denses, nous apportent là-dessus des renseignements précis. Et après une période durant laquelle la papauté a interdit les échanges commerciaux entre l'Occident et l'Orient pour faire un embargo du domaine mamelouk, l'étau se dessert et les chrétiens orientaux jouent un rôle majeur dans le renouveau des échanges économiques entre Orient et Occident. Et là s'affirment de très puissantes familles syriennes de Famagouste, comme par exemple les frères Lacas, qui sont des Nestoriens. Et cette famille nestorienne, nous savons qu'elle entretient de ses subsides les familles franques jusqu'à la royauté. Nous avons des descriptions très précises des trésors de cette famille. Par contre, dans les années 1360, avec la prise de Famagouste par les Génois, eh bien, ces familles syriennes sont très fortement impactées. Si bien qu'elles tentent, ces familles syriennes, de retrouver leur puissance à Famagouste en s'associant aux Vénitiens. Et on voit, par exemple, un Syrien melkite du nom de Thibaut Belfarage qui accède au rang de citoyen vénitien, qui est également un très proche conseiller du roi Pierre II de Lusignan, qui a une fonction militaire éminente puisqu'il est grand turcoplier du royaume de Chypre, et il tente d'évincer les Génois de Famagouste. À partir de là, il cesse de bénéficier du soutien de la famille des Lusignans qui reste prudente. Et donc, il est condamné à mort alors même qu'il a souhaité créer sa propre principauté à cheval sur Chypre et le continent, notamment la ville de Korykos.
Où l'on voit à Chypre aussi la continuité de ce conflit entre Gênes et Venise. Finalement, ce sont les Vénitiens qui vont garder l'île et qui vont en faire une colonie qui va durer quelques 80 ans, je crois.
Oui, tout à fait. Ce qui se passe, c'est que, à partir encore une fois des années 1360, les Lusignans sont de plus en plus endettés. Pourquoi ? Parce que, d'une part, les Mamelouks ont réussi à s'emparer du monopole du commerce maritime. D'autre part, les Génois ont mis la main sur Famagouste et les Lusignans sont obligés de payer un lourd tribut annuel. Et enfin, venant aggraver le fardeau fiscal, à partir des années 1420, 1426 exactement, les Mamelouks imposent un tribut à l'île de Chypre. Si bien que les Lusignans sont obligés de s'endetter et ils s'endettent auprès des riches familles vénitiennes de l'île, riches familles qui ont investi dans les exploitations sucrières. Et parmi elles figure la famille des Cornaro. Et c'est ainsi que, dans les années 1470, le roi de Chypre, Jacques II de Lusignan, se marie avec Catherine Cornaro. Peut-être n'est-ce pas le hasard que de cette union découle la domination des Vénitiens.
La fameuse reine Cornaro, la dernière reine de Chypre. Une dernière question, que sont devenues ces familles chrétiennes d'Orient avec l'arrivée des Ottomans, donc le siège de 1571, est-ce qu'on sait s'ils sont restés, s'ils sont partis, s'ils ont pu s'intégrer? Est-ce qu'on a des informations?
Alors sur ce point, les sources sont assez contradictoires parce que chaque communauté de Chypre revendique une part dans la défense de l'île. Ainsi, les Maronites affirment qu'ils se sont plus défendus que ne l'auraient fait les Grecs, mais les sources sont extrêmement contradictoires et révèlent là des dissensions. Ce que l'on peut dire, c'est que selon les sources latines tardives comme celle d'Étienne de Lusignan, mais enfin qui sont contemporaines de la prise de Chypre par les Ottomans, ces sources reprochent aux Vénitiens de ne pas avoir prolongé l'élan d'intégration auquel s'étaient livrés les Lusignans, si bien que Étienne de Lusignan nous dit que si les Grecs, les chrétiens orientaux, avaient davantage été invités au rouage du pouvoir et s'était senti partie prenante de la défense de l'île, eh bien celle-ci n'aurait pas succombé.
Les rouages politiques, vous voulez dire, pas simplement les rouages économiques où ils étaient cantonnés.
Exactement, peut-être. Parce que ce qui se passe dans la Chypre des Lusignans à partir des années 1320, c'est que après une période où il y avait eu affirmation de la suprématie franque par rapport aux communautés chrétiennes orientales, eh bien, au contraire, on assiste à un partage des responsabilités entre francs, grecs et chrétiens orientaux.
Laurent Fenoy, est-ce que vous avez pris plaisir à parcourir ces sources, à lire ces chroniques de l'époque ?
Oui, alors elles sont très abondantes, elles sont très diverses. Nous avons des sources latines, des sources chrétiennes orientales. Les sources arabes doivent être prises en considération. Évidemment, les sources grecques. Ce qui est intéressant dans ces sources, c'est qu'elles révèlent les dynamiques d'intégration de ces différentes communautés. Par exemple, les sources latines du XIIIe siècle montrent la suprématie des Francs. Des Francs qui instrumentalisent les identités des différentes communautés à des fins de catégorisation sociale. Mais là, nous sommes au XIIIe siècle. C'est-à-dire que se fondant sur le principe de la personnalité des lois, chaque sujet dispose de droits spécifiques en fonction de son appartenance confessionnelle. Et cela profite aux latins, puisque les sources nous disent que ceux qui appartiennent à la loi de Rome, autrement dit les catholiques, accèdent à un statut privilégié et que les autres sujets de Chypre sont des sujets de seconde zone. Mais ce que nous montrent les autres sources, en particulier les sources grecques, la chronique de Léontios Makeras, XIVe siècle, et puis des sources probablement écrites par un Syrien, Georges Boustronios, au XVe siècle. Ce qu'elles nous montrent, c'est l'avènement de ce qu'elles appellent les Cypriotes. Alors, les Cypriotes, ce sont des sujets chrétiens orientaux, grecs, ce sont aussi des nouveaux venus issus d'Occident qui accèdent aux responsabilités. Pourquoi ? Parce qu'au cours du XIVe siècle, en raison de la peste, en raison de l'éloignement aussi entre Chypre et le continent, les descendants des réfugiés francs sont de moins en moins nombreux et les Lusignans nécessitent d'élargir l'assise de leur pouvoir et ils le font de manière très habile en direction des autochtones grecs et chrétiens orientaux. Et ce qui se passe au XIVe et XVe siècle, c'est que le lien entre identité et catégorisation sociale, dont nous parlions précédemment, est détricoté. Et à partir de cette période, indépendamment de l'identité, indépendamment de l'appartenance confessionnelle, un grec, un chrétien oriental, aussi bien qu'un latin, peut accéder aux fonctions de commandement, qu'elles soient économiques, militaires, politiques, ecclésiastiques.
Laurent Fenoy, je vous remercie infiniment d'être venu jusqu'à notre micro de France Culture. Je rappelle le titre de votre livre « Chypre, l'île des nations chrétiennes, 1192-1473 ». Merci pour ce bel effort de synthétisation d'un peu plus de 600 pages. On a quand même eu besoin de deux émissions pour à peu près faire le tour. Je remercie aussi Louis Perrault qui m'a aidé pour la préparation de cet entretien. Je rappelle voilà votre livre qui est une merveille d'intelligence, de finesse, d'approche. Voilà, on comprend cette gestation d'un monde oriental qui est au fond assez passionnant. Je remercie Séverine Cassard pour la réalisation de cette émission, Claire Poinsignon, Julien Douminc pour la technique. Nous retrouvons maintenant le service protestant Solae. Je vous souhaite un très bon dimanche. Merci.